Bonsoir à tous et bienvenue au Forum quotidien du studio Kalangou. Bien que le Niger ait ratifié tous les instruments juridiques internationaux et régionaux visant à garantir aux enfants un monde meilleur, les droits des enfants nigériens ne sont pas encore effectifs. Pour preuve, selon les Nations Unies, près de 8 millions d'enfants, soit plus de la moitié de la population, vivent ou travaillent dans la rue, ce qui les expose à des risques graves, soustraits à l'éducation et à la formation professionnelle, exposés à la violence physique et psychologique. Qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui nous allons parler des enfants de rue. Quelle solution à ce phénomène qui s'amplifie de jour en jour? Je suis Rafika Taher à la présentation et pour les discussions et partages d'idées, nous avons invité Madame Gueye Fatouma Talawali, présidente de l'ONG La Voix d'une Mère, Monsieur Zibri Nahamani, membre de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, et Monsieur Alou Aye, qui est sociologue. Bonjour Monsieur Alou. Bonjour. Bienvenue. Tout d'abord, nous allons commencer par vous, Monsieur Zibrina. Comment est-ce que vous travaillez au sein de votre ONG?
Au sein de notre ONG, on travaille et dans le retrait, la sensibilisation, le retrait des enfants qui sont au sein des activités de travail où il y avait le travail des enfants. Nous avons retiré beaucoup d'enfants dans ce domaine parce que ces enfants, ils étaient beaucoup très exposés. On a retiré plus de 200 enfants aujourd'hui.
Oui, mais Monsieur Zibrina, est-ce que vous avez un œil sur les enfants qui sont dans la rue?
Quand on trouve les enfants sur le lieu du travail, quand c'est des petits-enfants, là, on a un œil là-dessus. Parce que là, on intervient pour essayer de retirer les enfants sur les pires formes de travail des enfants. Beaucoup d'enfants qui se trouvent, que ce soit des filles ou bien des garçons, on les trouve dans la rue. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à ces enfants-là.
Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant de rue et un enfant de la rue?
Oui, bien sûr. La différence, c'est que les enfants de rue, ce sont les enfants qui, d'une manière ou d'une autre, squattent même dans la rue. Mais les enfants dans la rue, ce sont nos enfants. Comme vous voyez dans tous les quartiers de Niamey, vous allez trouver quand il y a des enfants, des petits-enfants qui sont là dans la rue, souvent ne sont pas accompagnés de leurs parents. Et ils viennent, ils jouent dans la rue. Et ceux qui peuvent jouer, ils jouent dans la rue parce qu'il n'y a pas un lieu de récréation. Il n'y a pas de lieu propre. Et ça aussi, c'est un problème extrêmement important pour lequel il faut trouver aussi une solution. Donc, c'est un tout. En fait, quand on parle des enfants, c'est un tout. Parce que c'est tout ça là, ce sont les droits des enfants. On doit les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils deviennent des hommes de demain.
Ça rejoint un peu ma prochaine question, Monsieur Zibrina. Oui. Ceux qui passent la journée dans la rue mais rentrent le soir ou font des apparitions irrégulières, par exemple, dans leur domicile, oui. Sont-ils aussi? Est-ce qu'on peut aussi les appeler enfants de rue? Par exemple, un enfant qui quitte le domicile familial aujourd'hui et qui fait une apparition peut-être dans 2 ou 3 jours, mais qui finit toujours par rentrer à la maison. Comment est-ce qu'on peut appeler ces genres d'enfants?
Mais toujours, ce sont des enfants de rue. Puisqu'ils ne sont pas encadrés par les parents. Des enfants qui sortent et qui vont 2 ou 3 jours, qui reviennent, bon, on ne sait même pas pourquoi ils reviennent, d'autres ne reviennent même pas. Ils vont trouver là-bas, ils vont squatter partout et puis c'est fini. Souvent, il y a des enfants qui fuguent, quand ils fuguent là, ils rentrent avec les enfants de rue et ils ne veulent même pas revenir. Même quand on les ramène à la maison, ils vont fuir encore et retrouver les autres. Parce que déjà, leur façon de vivre a changé. Leur mentalité a changé. Donc, ceci-là, il devient un peu difficile de pouvoir même les maîtriser et les mettre sur la bonne voie.
Madame Fatoumata, comment est-ce que vous œuvrez au sein de votre ONG?
Ok, merci Madame Rafika. Et notre ONG, tout d'abord La Voix d'une Mère, est une ONG qui est créée pour solutionner les problèmes liés à l'éducation. Donc, de nos jours, plusieurs fléaux gangrènent cette éducation, d'où l'union de toutes ces mamans au sein d'une structure appelée la voix d'une mère Yimakai, et pour vraiment accompagner, encadrer, éduquer et approcher ces innocents, y compris ceux de la rue, sont nos cibles. Nous avons des représentations dans toutes les 8 régions. Donc les enfants de la rue, comme je l'ai dit, sont aussi nos cibles. Nous travaillons beaucoup avec eux. Au début, ce n'était pas facile parce que quand nous avons regardé notre objectif au sein de la Voix d'une mère, c'est l'enfant. Notre premier site était les ronds-points église. Et quand vous constatez maintenant, ils ne sont pas là. Il faut avoir une méthode d'approche. Et nous, mashallah, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, nous l'avons. Parce que ces enfants-là, tout le monde a peur d'eux. Et voilà, ces enfants-là, au début, n'ont pas voulu se confier à nous. Parce qu'ils nous ont dit même qu'ils ne sont pas des Niamis. Et ils sont d'ailleurs, les autres disent des Hamdallah, Bruni, un peu partout, Zarmaganda. Avec le temps, ils ont compris. Ils se sont confiés avec le temps à nous. Et vu que vraiment vous nous avez sensibilisés par rapport au danger de la rue, ramenez-moi chez moi. Ah bon, vous dites que vous êtes des Bruni, vous, Boubacar? Il a dit, voilà, j'ai menti. Mon papa, c'est un maître maçon, il est à l'aéroport. Je ne m'entends pas avec sa femme. C'est pour cela que je suis sortie.
Voilà, en fait, il y a toujours des raisons, Madame Fatima. Mais quels sont les facteurs? Est-ce que vous pouvez nous dire ces facteurs qui incitent ces enfants à quitter le domicile familial et être dans la rue?
Bien sûr, il y a plusieurs facteurs, Madame Rafika. Et comme les cas dont je viens de mentionner, c'est un facteur, un problème familial.
Voilà.
L'enfant, là, ne s'entend pas avec sa belle-mère. Ça marâtre, donc d'où il ne se sent pas chez lui. Il préfère venir vivre là où vraiment il se sent à l'aise, parce que chez lui, il ne se sent pas à l'aise. Donc ça, c'est un problème familial. Il y a le problème de la pauvreté. Parmi ces enfants-là, on a discuté avec plusieurs qui nous ont dit que c'est leur même parent, leur mère qui leur dit d'aller chercher de l'argent. Donc, si on n'a pas cet argent, tanti, on ne peut pas rentrer à la maison. Et des fois, si on trouve cet argent, on mange. Ça nous suffit seulement pour manger. Et quand on mange, on n'a pas de quoi amener à la maison. On préfère dormir ici. Et des fois, ils sortent de loin. Donc, vous voyez tout ça. Il y a une démission totale. Il y a cette démission des parents. Quelque part, comme je dis, il y a la pauvreté, il y a la démission. Parce qu'il y a des parents qui s'en fichent. Si l'enfant sort, il s'en fout. Il se trouve où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, c'est une démission. Parce qu'on ne peut pas mettre un être au monde et le laisser à son sort. On doit s'occuper. Donc, il y a ces points. Ouais. Il y a le problème aussi, si je peux dire, des enfants qui sont mal encadrés. Il y a des enfants, il y a des parents qui ne sont pas rigoureux dans l'éducation. Si l'enfant insiste à être un délinquant, il lâche. Comment je peux faire? On a ramené beaucoup des enfants chez eux. La maman ou le père va dire, celui-là dont vous voyez, il n'entend pas. J'ai fait, je l'ai amené à l'école coranique, je l'ai amené à l'école, il ne fréquente pas. Il refuse, il sort. Il revient 2 jours, 3 jours. Maintenant, je ne le vois même pas dans 2 mois. Comment un parent peut laisser son enfant dehors 2 mois sans savoir où il est et il est tranquille? Donc, vous voyez, ce manque d'encadrement, ce manque d'accompagnement. Aujourd'hui, les parents vraiment...
ont complètement démissionné.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr,
Monsieur Zibrina, apparemment, vous avez des compléments d'informations par rapport à la question. Est-ce que vous avez aussi d'autres facteurs à nous dire qui inciteraient ces enfants à quitter les domiciles familiaux?
C'est toujours le même domaine, parce qu'on dit chez nous, par exemple, quand on parle de violence familiale, on dit 80% de la violence familiale, c'est dans la famille. Et le problème, c'est toujours au niveau de la famille. Quand la famille est disloquée, par exemple, parce que le cas qu'il appelait, il y a à peu près ces trucs comme ça, le père, il prend une autre femme, il a une autre femme, il chasse l'autre femme avec ses enfants. Quand il laisse ses enfants chez lui, l'autre femme ne s'occupe pas de ses enfants-là. Et ils sont maltraités. Et finalement, ils vont finir par quitter le domicile familial. Et quand il y a divorce aussi, quand il y a divorce totalement, bon, là, c'est encore un autre problème. Quand il y a un divorce et que le père ne se marie pas, il ne trouve pas une autre compagne, ça devient un problème. Même s'il va avec sa mère, la mère ne peut pas entretenir les enfants. Donc, il y a un problème très sérieux là-bas. Et même s'il y a Et souvent, quand il n'y a pas les parents, même les deux parents ne sont pas là, on envoie chez un tuteur, c'est aussi un problème. C'est-à-dire l'enfant ne peut être à l'aise que chez lui, entre les deux, la mère et le père. Parce que si l'autre ne s'occupe pas, l'autre va s'occuper. Donc, il est encadré. Mais quand il n'y a pas cet encadrement-là, donc c'est ce qui fait ces trucs-là. Et souvent, comme elle explique aussi, au sein de la famille, si on ne tient pas compte donc des besoins de l'enfant, il va avoir des fuites. L'enfant va quitter même le milieu familial pour aller quelque part parce qu'il ne se sent pas à l'aise même chez lui. On ne le comprend pas et il quitte et il va ailleurs et il va dans la rue. Même si on le ramène, deux jours après, encore, il retourne. Donc, il faut trouver une solution à cela. Ça, c'est des choses. Et le plus souvent, même les enfants qui sont entre père et mère, il y a aussi l'exclusion scolaire. Quand les enfants sont exclus et que les parents n'ont pas les moyens de les amener, de les ramener à l'école ou de payer leur éducation, les enfants, là, ils vont comme ça, continuer à errer dans la rue et ainsi de suite. Et puis finalement, ils vont trouver peut-être là-bas même c'était mieux. Maintenant, même quand on veut les ramener et les ramener à l'école, ils ne veulent même plus. Donc, ça devient un problème.
Monsieur Alou, quelle est l'implication de la société dans la présence de ces enfants dans la rue? L'enfant devrait être où?
Oui, fondamentalement, l'enfant est conçu pour qu'il soit dans une cellule familiale. Parce que, à la différence peut-être d'autres espèces, l'être humain n'est jamais accompli. Il vient inaccompli en ce monde d'ici-bas. C'est dans une cellule familiale qu'il est censé avoir les éléments en termes de valeurs, en termes de normes, qui puissent lui permettre de se construire et qu'il soit demain un adulte pour lequel la société aura une certaine fierté ou va se retrouver. Eh bien, lorsque vous allez rencontrer un enfant hors de la cellule familiale, dites-vous qu'il y a un dysfonctionnement dans le processus de l'éducation ou de socialisation de cet enfant-là. Tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, l'enfant est censé être dans la cellule familiale afin qu'il puisse bénéficier de toutes les valeurs et les normes de la société. Mais dans la rue, donc il y a un problème d'abord de dysfonctionnement au niveau de sa cellule familiale. Les parents ont échoué quelque part. La première responsabilité, c'est véritablement les parents. Parce qu'on a comme l'impression, et c'est malheureusement l'image que nous sommes en train de donner de plus en plus, qu'on est plus des géniteurs que des parents. Géniteurs, autrement, on est prêt à mettre au monde les enfants, comme dans la nature, et les laisser à la merci de la rue. Il n'y a aucune volonté, il n'y a aucun souci de pouvoir encadrer ces enfants-là dans la cellule familiale jusqu'à un certain seuil, en termes d'âge, pour qu'ils puissent acquérir suffisamment les éléments leur permettant demain d'avoir une place dans la communauté. Donc, c'est d'abord ce premier dysfonctionnement-là qu'il faut décrire. Le deuxième, c'est l'apport de la communauté, de la société. Parce que pour l'éducation d'un enfant, il ne faut jamais l'occulter. Il n'y a aucune cellule familiale à elle seule. Autrement, le père et la mère avec les enfants qui seront en mesure d'éduquer un enfant. Non, un enfant, c'est un tout. Parce qu'il évolue dans un cadre qu'on appelle la société ou la communauté. Eh bien, dans ce processus d'éducation de cet enfant-là, non seulement la première responsabilité relève aux parents qui l'ont mis au monde, mais la deuxième, c'est la communauté qui doit l'assister. Parce que l'enfant ne peut pas être toujours dans les quatre murs de la cellule familiale. Il va sortir. Lorsqu'il sera au dehors, quelles seront ses fréquentations? À l'école, quelles sont ses fréquentations? Et ça, c'est la société qui devrait, ou la communauté qui devrait épauler les parents pour que l'éducation puisse marcher. Les parents font leur mieux et donnent ce qu'on appelle l'éducation de base. Donc, la substance essentielle pour construire l'enfant, mais de ce qu'il sera au dehors, pour qu'il ne puisse pas être influencé par les aléas de la rue, eh bien, la communauté est là pour veiller afin de mieux cadrer cet enfant-là jusqu'à un âge, comme je le disais tout à l'heure. Mais tant que ce dispositif n'y est pas, eh bien, c'est tout à fait normal que vous allez retrouver, malheureusement, beaucoup des enfants dans la rue. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens sont à la limite fiers, est-ce qu'entre griffes vraiment, de laisser leurs enfants dans la rue. Parce qu'ils sont en train de démissionner. On va brandir soit l'histoire de la pauvreté, de la misère qu'on a, pour délaisser nos enfants à la merci de la rue. Alors qu'on oublie dans la rue c'est tous les contre-valeurs de la société que l'enfant là va avoir. Et on n'aura pas en ce moment-là un adulte utile pour la société, mais on va créer un monstre pour la société qui va finir par la détruire. C'est cela malheureusement.
Madame Fatouma, mais comment arriver à insérer ces enfants dans la société?
Donc, comme l'a dit monsieur le sociologue, il a parlé de la démission totale des parents. Il a parlé aussi de l'étang, si l'enfant sort, il y a la communauté aussi qui veille sur lui. Mais de nos jours, même la communauté a abandonné. Il y a cette démission aussi de la communauté. Chacun s'en fiche. On regarde, on s'en fout. C'est des enfants, on les dénigre. On oublie que ces enfants, plus tard, cette société a besoin d'eux. Et tant qu'ils vont grandir dans ce sens, c'est tout le monde qui aura des problèmes. Donc, il faut penser à ça.
Et leur réinsertion, demande
le concours de tous, pas uniquement de leurs parents. C'est pour ça qu'au sein de la Voix de Mère de notre ONG, nous appelons toute la société à s'unir pour ces enfants. Parce que ces enfants ont besoin de leurs parents, ont besoin de cette communauté dont le sociologue a mentionné, et de l'État. L'État, c'est l'État même qui doit s'engager pour faire ce travail, pour appeler tout le monde à cette initiative. Parce que ces enfants, qui va gérer? Aujourd'hui, dans votre introduction, vous avez dit plus de 8 millions.
8 millions.
Depuis qu'on regardait des centaines, des milliers, aujourd'hui, on en compte presque un tiers de la population nigérienne dehors. Et ces enfants-là, seront notre élève. Et quel genre de relève nous allons laisser? Aujourd'hui, l'État est en train de se battre pour sa souveraineté. Mais
est-ce qu'il y a des problématiques, par exemple, que vous rencontrez, M. Zibrina, vous qui sortez ces enfants de la rue, qui travaillent dans la rue, est-ce qu'il y a des problèmes que vous rencontrez dans le cadre de cet exercice?
Bon, moi je dis que le problème fondamental, c'était une question de la compréhension de la société. Parce que le sociologue il vient de cadrer les choses. L'enfant, la famille, ensuite la société ou la communauté. Dans le temps, ce que nous savons très bien, l'encadrement d'un enfant n'est pas seulement laissé à ses parents. C'est tout le monde qui participe. Dans le temps, quand un enfant, dans la rue, il commet des gaffes, c'est les autres qui vont le prendre et le corriger. Ils vont le tabasser. Et ils vont le mettre chose. Et quand il va à la maison et quand on va apprendre qu'il a déconné, les parents aussi vont encore ajouter le leur pour que l'enfant devienne quelqu'un de valable, quelqu'un d'important demain. Mais aujourd'hui, non. Si tu vois même un enfant en train de déconner dans la rue, aujourd'hui, si tu essaies de le frapper, les parents vont sortir, pourquoi tu vas te faire taper mon enfant? Or, si on laisse les enfants à leur sort, Nous allons perdre dans le temps. Parce qu'on dit le bien d'une société, ce sont les enfants. Parce que c'est eux qui font la relève. Quand la relève n'est pas bonne, c'est grave pour la société. Qu'est-ce qu'on est en train de constater? Même alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit des enfants qui participent à des vols, à des larcins, à des complots, à des trucs. Quand tu vois les enfants, c'est pas possible. Ça, là, c'est. Ils boivent, ils prennent de la drogue, ils font des chichas, ils font de n'importe quoi, et tu trouves des filles et garçons ensemble, dans la rue, avec des gaillards, avec tous ces. Non,
c'est. Oui, cet ensemble-là, est-ce que c'est facile pour vous?
Non, ce n'est pas facile parce que déjà, quand l'enfant se trouve dans cette situation-là, pour essayer de le ramener, et ce n'est pas facile. Parce que d'abord, souvent les enfants, même, ne te disent même pas, ils viennent d'où? Ils te disent même pas de quels parents, de quelle famille ils sont. Ils te le diront jamais. Ils vont te mentir et ils te diront pas la vérité. Ils te disent même pas dans quel village ils viennent. Parce que eux, pour eux, c'est fini. La rue est devenue leurs parents. Donc, ils ne veulent même pas retrouver leurs propres parents parce qu'ils pensent que bon, c'est même pas la peine. Donc, ça, c'est ça un peu les grandes difficultés. Maintenant, il faut beaucoup de travail pour que, amener ces enfants-là, à les isoler, à les sensibiliser. Et peut-être créer les conditions pour que soient pris en charge pour essayer peut-être de les réinsérer de leur part dans la famille. Et même au niveau de la famille, souvent il faut beaucoup parler aux parents pour faire comprendre que cet enfant-là, voilà, en fait, c'est une valeur et qu'il faut s'occuper de lui. S'il y a des difficultés, peut-être il faut aider un peu et puis c'est fini.
Monsieur Alou, ce sont des endroits exposés à tous les dangers, livrés à eux-mêmes sans protection familiale. Quel est l'avenir de ces enfants si rien n'est fait?
Mais l'avenir, malheureusement, on ne peut pas parler d'avenir. Dans le sens, en tout cas, si on doit raisonner avenir comme étant un truc, une plus-value, un truc positif. Pour ces enfants, on ne peut pas parler d'avenir. Parce que, je le disais tout à l'heure, dans la rue, il n'y a rien que le contre-valeur. C'est comme l'avait dit tout d'astuce, c'est le petit banditisme, la délinquance, la prostitution, la cybercriminalité, c'est tout ça là qu'ils vont rencontrer. Donc, or, lorsqu'on évolue dans ce monde-là, on ne peut pas parler d'avenir, mais on va parler de problématiques, de problèmes qu'ils vont causer à la société. Parce que, tout de suite, madame le disait, si on est en train de se battre quelque part pour notre souveraineté, mais lorsque cette souveraineté sera acquise, avec qui? Qui va la gérer? Vous parlez de plus de 8 millions de jeunes qui sont dans la rue. Mais qu'on le veuille ou non, demain, ils vont être les adultes. Et c'est ces adultes-là qui vont gérer ce pays-là. De quelle manière? Et c'est cela la catastrophe. Et c'est pourquoi à chaque instant, à chaque moment où j'ai l'occasion, j'ai dit que c'est une problématique véritablement pour laquelle l'État doit prendre en charge. Parce qu'au-delà de la famille, au-delà de la communauté, c'est l'État qui a un certain pouvoir, une certaine capacité de pouvoir réinsérer ces jeunes-là. Parce que tant qu'on voit dire que non, c'est l'enfant de l'autre, c'est pas mon enfant. Mais lorsqu'il va devenir un problème, ce ne sera plus le problème de son papa, mais ce sera ton problème à toi. Lorsque la bonne dame va partir au grand marché, on va lui arracher son sac avec les millions dedans. Est-ce qu'elle a pensé un jour, peut-être lorsque l'enfant là était dans la rue, si elle pouvait le récupérer? C'est cela, des actions comme ça qu'on est en train de quitter. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de créer des monstres dans notre société qui vont finir malheureusement par détruire tout ce que nous aurons comme valeur.
Oui, on parle de antigriffes, monstres, comme vous le dites, qui peuvent détruire l'avenir plus tard. Mais eux-mêmes, quels sont, est-ce qu'il y a des dangers qu'ils encourent?
Mais évidemment, oui. Évidemment, il y a des dangers qu'ils encourent.
Parce qu'il faudra penser aussi à leur bien-être.
Merci. Mmh. Ils sont enrôlés par des gangs. Ils sont enrôlés par le gang. Aujourd'hui, il faut partir faire le tour pour ceux qui sont habitués d'être sur le terrain. Les jeunes-là, ils sont employés par des grands gangsters. Qui les utilise dans la prostitution, qui les utilise dans le trafic de drogue, qui les utilise dans le petit vol. Arracher des sacs, tout ça là, c'est ces jeunes qu'on utilise. Et il ne faut pas oublier les violences au quotidien auxquelles ils sont et qu'ils subissent. En termes de violences sexuelles, du sérieux et psychologiques également. Donc on détruit, on anéantit ces enfants-là. Et c'est pourquoi, en fin de compte, ils vont devenir caduques. Le terme échappe, ils vont devenir plus durs par rapport à la société. Ils ne seront impitoyables parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour et de l'affection. Or, la science l'a démontré, l'enfant ou l'adulte ne peut donner que ce qu'il a reçu dans son enfance. Si dans son processus d'évolution, il a connu du mépris, de la violence, du rejet, de la stigmatisation, lorsqu'il sera adulte, il ne peut que reproduire la même chose. Absolument. Mais tout celui qui a connu de l'affection, de la douceur, de l'attention, demain, il est plus à même de pouvoir la transmettre. Donc c'est cela.
Madame Fatoumata, est-ce que ces enfants ont d'abord des droits? Quels sont les droits de ces enfants?
Bien sûr, ces enfants ont des droits comme tout autre enfant.
Parce qu'on a l'impression qu'ils sont délaissés, livrés à eux-mêmes sans droits. Non. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces droits-là de ces
enfants? On les nie les droits, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les droits. Mm-hmm. Ils ont droit à l'éducation au et au bien-être. Bien sûr, si j'ai dit bien-être, il y a y compris la santé. Ces enfants dans la rue, les premiers jours qu'on est parti là-bas, on a trouvé un qui est couché. Tu as quoi? Il dit qu'il a des maux de tête. Depuis quand? Il dit depuis hier nuit. Jusqu'à vers 11h, il est là couché. Donc, personne n'est là pour lui. Donc, vous voyez. Et ces enfants-là, ils peuvent porter une tenue pendant des dizaines de jours. très sales. Il faut qu'on vienne sur le terrain, leur donner de quoi acheter des savons. Des fois, on leur donne, ils n'achètent pas. Donc, on est obligé des fois acheter, leur amener. Comment vous allez laver les... Ils disent qu'ils partent au bord du fleuve laver. Donc, on achète des savons parce qu'ils sont très sales. Il y a des enfants qu'on récupère, l'amener chez eux. Mais là-bas, vous allez trouver aussi autre chose. Et d'abord, les enfants sont, les parents sont absents à la maison. Il n'y a rien à manger. Donc, les jours où on les amène, on peut leur donner quelque chose à manger. Mais les jours suivants, comment ils vont faire? Ils seront obligés de sortir. Les parents n'ont rien laissé. Les parents ne sont pas là pour eux. Vous comprenez? Donc, on les nie ses droits. Ils ne savent même pas ce qu'est l'amour. Parce que les enfants aiment les parents. Mais quelque part, sincèrement, nous sentons que, comme je dis la démission, les parents n'ont aucun grain même de cet amour dans leur cœur. Parce qu'un père, une mère qui aime, ne peut pas coucher. Il y a des enfants qui nous... Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Maman, vous savez, moi, quelle qu'en soit ma délinquance, je dors chez moi. Je sors, je fais tout ce que je veux ici, mais je ne peux pas dormir ici. Parce que si je ne rentre pas à la maison, ma mère ne dort pas. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont là, et faire des semaines, deux mois, nous avons l'habitude d'amener des enfants chez eux. La mère va dire, ça fait deux mois, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Donc, c'est cette mère qui peut dormir tranquille, sans savoir dans quel danger ils sont. Ils sont dans beaucoup de risques. Ils sont vraiment exposés. C'est des enfants même exposés, avant même d'amener à la situation qu'ils vont créer dans l'avenir. Mais eux-mêmes, ils sont vraiment exposés à beaucoup de dangers. Comme l'a dit monsieur le sociologue, ils sont exposés à être enroulés par des gangs. Donc la drogue est là. Tous ces enfants-là consomment de la drogue. Ça, je vous le garantis. Ils en consomment nuit et jour. Là, c'est leur santé même qui est en jeu. Donc, les gangs, les maltraitent, il y a la violence. Et la société aussi. Parce que des fois, quand on discute avec eux, ils disent, vous êtes même ceux qui nous aiment. Parce que nous ici, tout le monde nous fuit et pense que nous sommes rejetés. Ils sentent que les gens ne les aiment pas. On voit à nous des méchants, des voleurs. Donc, même si on n'a pas volé, alors que des fois, ils disent que des fois, c'est même pas nous qui volons.
Et c'est ceux qui font ressentir le sentiment de dégrèvement envers la population.
Bien sûr, c'est cela. Et c'est, ça, là, va vraiment, peut-on dire, graver dans leur conscience. Même plus tard, comme l'a dit monsieur le sociologue, ils vont reproduire. Et cette méchanceté, parce que et les autres, c'est un climat de méfiance. Donc, même étant adulte, cet esprit-là va rester et revivre dans leur, comment on appelle ça, conscience. Ils vont toujours regarder les gens comme ils les avaient regardés avant. Donc, vous voyez, il y a tout genre de problème qui est là. Et que la société, si on ne peut rien pour ses enfants, on peut rien, si on n'a rien fait pour eux, vraiment, on risque de se retrouver, je ne sais même pas, parce que c'est sérieux.
Monsieur Alou, je reviens vers vous. Avec tous ces droits que Mme Fatoumata vient de nous énumérer, quelles sont les obligations des parents aussi envers ses enfants?
L'obligation, la première obligation d'un parent vis-à-vis de l'enfant, c'est de lui d'abord attribuer un nom, comme on le dit. Donc, tout faire pour que cet enfant-là puisse avoir un nom et un acte de naissance. L'acte de naissance est fondamental. La première des choses, en termes, en tout cas, social, ça c'est peut-être l'aspect juridique, c'est éduquer. L'enfant, c'est une boule de chair qui arrive dans votre vie, qui n'a aucun moyen de protection. Aucune capacité de se défendre. Il a des éléments en lui qui sont innés. Mais il faudrait que vous puissiez l'encadrer, le développer pour que ces éléments-là puissent surgir et qu'il devienne un homme. Donc, en termes sociaux, la première responsabilité des parents, c'est l'éducation. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Or, même l'animal, il éduque. C'est vrai, l'animal agit par instinct. Mais il y a des éléments donc, d'apprentissage qu'il donne.
Mm-hmm.
Plus forte raison, un être humain, conscient, qui peut dormir en ne sachant même pas où se trouve son enfant. Il y a des gens qui peuvent faire des semaines, des mois, madame vient de le dire, ne savent même pas où se trouve leur enfant. Donc, c'est un problème de responsabilité d'abord des parents. Parce qu'ils ne comprennent pas peut-être eux-mêmes c'est quoi être un père. Être un père, ce n'est pas mettre au monde. Non, en ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, on devient plus un géniteur. Mais un père, c'est celui qui a la responsabilité, qui sait qu'il a la responsabilité d'éduquer cet enfant-là. On l'éduque avec des normes, on l'éduque avec les valeurs. On le conseille, on l'approche, on l'amène dans les écoles, dans les établissements, dans les mercantiles, en tout cas partout où il le faut. Tout ce que tu ne peux pas garantir, tu cherches le cercle approprié pour l'amener. Il faut garantir sa santé. Lorsqu'il est malade, il faut savoir que le malade est comment assurer sa santé. Lorsque, en termes d'éducation, il a des difficultés, il faut l'assister. Lorsqu'il a des problèmes, parfois, puisque chacun vient avec des aptitudes différentes, lorsqu'il a des problèmes parfois de s'adapter à un certain nombre de normes de la société, il faut l'assister.
Ouais.
Donc, d'accord. C'est comme ça le rôle sociétal, en tout cas, des parents. Mais lorsqu'on ne le joue pas, eh bien, on ne construit plus un enfant. On ne construit plus une cellule familiale, mais on fait autre chose.
Monsieur Zibrina, est-ce qu'il y a des centres de rééducation pour ces enfants? Et si oui, quels sont les genres d'activités, par exemple, auxquelles ces enfants s'adonnent?
Oui, c'est ça. Je voulais en venir effectivement à ça. Le problème, c'est dans le cadre de recherche de solutions. Avant d'arriver à la question des centres de rééducation, il y avait dans le temps les centres de rééducation, un centre que tout le monde connaissait, le centre de Dakoro. Mais après réflexion, parce que nous avons eu beaucoup de discussions par rapport à ça, on pense que ce sont des mauvais enfants qu'on amène là-bas, des enfants de rejetés ou des trucs comme ça. Donc ça a pris une autre connotation qui fait que les enfants, les jeunes ne veulent pas amener leurs enfants là-bas parce que c'est un nom à peu près négatif. Mais on doit créer des centres de rééducation. Indépendamment de celui de Dakoro, on doit créer des centres de rééducation pour essayer de récupérer les enfants. Et ceux qui ont la possibilité de le faire, c'est toujours au niveau de l'État. C'est au niveau de l'État. La question des centres de rééducation, c'est au niveau de l'État. Donc, les ONG et associations n'ont pas les moyens. Mais ceux qui ont les moyens, c'est effectivement l'État. C'est l'État qui doit créer. En fonction donc de l'évolution des nombres des enfants qui se trouvent dans la rue, on doit créer des centres de rééducation pour que ces enfants-là soient désintoxiqués.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de centre de rééducation pour ces enfants?
Non, mais il y a
bien... À part le centre de Dakoro.
Bon, moi, c'est ce que je connais, le centre
D'accord,
de Dakoro.
Il n'y en a pas.
C'est le centre de Dakoro que je connais. Il faut normer l'enfant. Il faut le mettre dans une voie qui lui permettra d'être un homme de demain et utile pour la société. Mais pas le laisser à son sort et qu'il devienne nuisible pour la société. C'est ça, il y a la drogue, comme ils viennent de dire, ils sont exposés à tout. C'est ce qui fait le phénomène. Donc, avant d'aller dans le centre de rééducation, moi je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on doit revoir. C'est la question du cursus scolaire. Aujourd'hui, j'ai lu dans un journal, c'est hier seulement, j'ai vu, il y avait 43,37%. D'exclusion à l'école. Mais ça, c'est une catastrophe. L'État ne devrait pas se permettre une telle chose. Parce que vous ne pouvez pas exclure les enfants à l'école. Et demain, vous allez vous plaindre de ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus des enfants de rue. Après, ils vont être dans le terrorisme. Mais quand même, c'est une catastrophe pour la société. L'État ne doit pas accepter cette chose. On doit revoir. L'enfant, quand il est à l'école, un enfant qui quitte l'école primaire, il a moins de 13 ans. Mais ils vont devenir quoi? Où est-ce qu'on va l'orienter? L'État doit prendre des dispositions nécessaires pour que ces enfants-là se trouvent dans un profil vers la production. On les récupère. Même si l'enfant il a raté, il ne peut pas peut-être suivre, on doit le récupérer pour le mettre dans un centre de formation. Pendant 2 ans ou 3 ans, il va apprendre quelque chose et il va être quelqu'un d'utile pour la société. Il est au collège, on l'exclut. Et on les laisse dans, avec les parents qui n'ont pas les moyens. La majorité des parents n'ont pas les moyens pour inscrire leurs enfants à l'école, pour payer 130 000, 200 000 francs pour un enfant pour qu'il retourne à l'école. Les parents n'ont pas ces moyens-là. Beaucoup de parents n'ont pas ces moyens. Et même ceux qui ont les moyens, c'est un déséquilibre qu'on va causer au sein de la famille. Parce que ce qu'on utilise pour manger et se loger, payer la location, payer l'électricité, payer l'eau, maintenant on va orienter ça vers un enfant. Et donc, ça va être un déséquilibre. Donc, dans ces conditions-là, il faudrait bien que l'État prenne les dispositions nécessaires pour récupérer tous les enfants comme parce qu'ils ont échoué à l'école. Pour les orienter ailleurs, pour qu'ils ne soient pas dans, dans les centres de formation, il ne faut pas qu'ils échouent là. C'est vraiment un cri de cœur. L'État doit penser à cela. Sinon, on va toujours avoir ces trucs-là, les enfants de rue, on va avoir des délinquants dans les rues, des voleurs, des criminels dans la rue et même des gens qui vont aller dans les tournées parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça, c'est extrêmement dangereux et c'est grave. Il faut que l'État prenne conscience de cela.
Madame Fatoma, une fois que vous ramenez ces enfants à la maison, est-ce qu'il y a un suivi?
Il y a un suivi, bien sûr, parce que si on ne suit pas, ils risquent de récidiver. Ces enfants-là sont habitués à la rue. Et ils pensent que là-bas, c'est la liberté. Ils se nourrissent d'eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui a une pression sur eux. Donc, pour eux, c'est la meilleure vie et le bonheur qui est là-bas. Donc, on les sensibilise d'abord. C'est cette sensibilisation qui les incite à accepter de retourner chez eux. Parce qu'ils vont vous dire même qu'ils ne sont pas d'ici. Ils n'ont pas une maison. C'est quand ils voient qu'on insiste à ce qu'ils retournent quelque part, qu'on trouve quelque part pour eux, qu'ils vont dire, ah non, non, et moi je suis d'ici. Donc, ma maison est dans tel quartier, mon père et ma mère sont ceci. Donc d'abord, on sensibilise les parents. Les parents, il faut qu'ils veillent sur eux. Parce qu'on ne peut pas, comme tous ces participants l'ont dit, on ne peut pas mettre un enfant, un être humain en vie et vraiment l'oublier.
Mais si cette réinsertion familiale n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant?
C'est une médiation. On essaie de réconcilier. On essaie de réconcilier, de revenir les deux ensemble. Parce que c'est pas parce que cet amour-là n'existe pas. Non, c'est parce que cet amour-là, quelque part, il a disparu. Donc, on fait revenir cet amour au sein de cette famille-là. On montre à l'enfant qu'il n'y a pas là où qui est mieux que chez lui. J'aimerais parler un peu de ce qu'il a, comment on appelle ça, de sa conversation de l'école. Un renvoi de 43% l'année, vraiment, je ne sais pas, c'est tout le monde, c'est la défaillance de tout le monde ici, c'est le pays même. Parce qu'on ne peut pas renvoyer des enfants, comme il a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? 43%, donc parmi ces 43%, quel parent a les moyens de faire réintégrer ses enfants dans une école et privée? Peut-être 7%. Une moyenne de 7% ou moins. Donc, tous ces 40, 30 et quelques seront où? Donc, il faut que l'État pense à ça. Vraiment, ça nécessite des moyens multidimensionnels. Comme nous l'avons tous dit, il faut une réintégration. D'abord, un programme d'éducation et de formation professionnelle. La sensibilisation, surtout la sensibilisation, mener des campagnes de sensibilisation pour vraiment appeler les parents d'abord. Et l'État, nous insistons sur l'État. L'État doit prendre tous les moyens pour sécuriser ses enfants, voir comment faire d'abord avec eux, ceux qui ont à retourner chez eux, donc à retourner chez eux. On ne peut pas laisser des innocents à leur sort. Ils sont innocents, ces enfants. Donc, et il faut créer des programmes de réinsertion socio-professionnelle, ceux qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, d'être dans un centre de formation. Et ensuite, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, de réinsérer, pourquoi pas? L'éducation là, on peut donner ça à tout le monde. Ici, comment on va renvoyer 43% des enfants?
Merci, Madame Fatima, pour ces précisions. Nous allons terminer avec vous, Monsieur Alou. Comment prévenir enfin et combattre le fléau pour que ces enfants puissent retourner au bercail familial?
Merci bien. Tu as bien dit bercail familial. Et c'est intéressant de le rappeler parce que l'enfant n'a de sens ou de valeur que lorsqu'il est dans la famille. Il y avait une étude aux États-Unis qui a été réalisée et qui a démontré que l'enfant qui grandit en prison, autrement avec des parents prisonniers, il a toutes les chances d'avoir les aptitudes en termes de valeur sociale et normes qu'un enfant qui naît et qui grandit du moins hors de la cellule familiale. Donc pour vous dire l'impact fondamental de la cellule familiale, les parents doivent comprendre leur rôle, que même en prison, vous devrez être utile dans l'éducation de votre enfant à plus forte raison lorsqu'on est dans la liberté. Donc pour dire que la responsabilité nous incombe tous de savoir notre rôle, on n'a pas l'obligation de mettre au monde des enfants qu'on ne peut pas éduquer. Mettre au monde un enfant suppose, et ça c'est obligatoire, son éducation. Lorsqu'on ne peut pas garantir son éducation, arrêtons de le mettre au monde. Ça c'est fondamental.
Et c'est votre dernier mot.
Merci
beaucoup, Monsieur Alou. Ici se termine notre débat. Merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Merci également à vous, chers invités, pour votre disponibilité. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.studiokalangou.org et sur nos pages Twitter et Facebook. Excellent début de soirée à tous.